Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le National, présentée pour vous sur les ondes de Canal M par Clotilde Seille. Je vous rappelle, si par hasard vous ne connaîtriez pas cette émission-là, qu'elle est destinée à vous faire entendre ou peut-être réentendre des entrevues ou des sujets qui vous ont particulièrement intéressé sur notre antenne cette semaine. Des sujets d'intérêt général, c'est du moins ce qui nous semble le cas pour tous les francophones au Québec et au Canada. Alors, dans ce premier bloc, honneur à l'émission Les Paractualités, on doit dire que dans les derniers jours, il y a eu des sujets et des entrevues qui nous semblaient absolument passionnants. Alors, on aimerait vous en faire part. Il y aura aussi quelques nouvelles qui nous semblaient d'intérêt national. Alors, on va commencer avec une entrevue que Jérôme Bobin, directeur de Handicap International Canada, a donné à Hélène Denis, qui anime les Paractualités. Et c'est une entrevue qui explique l'opération Stop Bombing Civilians, qui est une campagne qui vise à faire cesser les bombardements sur les populations civiles. Alors, il s'agit de cela. Écoutez bien, c'est très touchant.
Maintenant, je m'entretiens avec Jérôme Bobin, directeur de Handicap International Canada. Bonjour, M. Bobin.
Bonjour, Hélène.
Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que Handicap International Canada?
Alors, Handicap International Canada, comme certains de nos auditeurs le savent, c'est une organisation humanitaire internationale dont le métier est en fait de venir en accompagnement, en soutien des personnes handicapées et des populations les plus vulnérables dans les pays en développement et les pays en crise. Et puis, on a une particularité, c'est qu'on mène un combat depuis de nombreuses années, hein, plus de 35 ans, contre les armes explosives, en fait, contre les mines antipersonnelles, les sous-munitions et tout type d'armes qui vont venir amputer bien souvent des personnes.
Alors, vous êtes le chapitre canadien de la Fédération Handicap International.
Voilà, tout à fait. On est une grosse organisation et puis cette grosse organisation-là, elle s'appuie sur 8 chapitres, 2 en Amérique du Nord et puis 6 en Europe. Et ces 8 chapitres travaillent tous ensemble pour aller dans le même sens au service des personnes en situation de handicap.
Oui, je sais que vous êtes un habitué de Canal M et les gens vous connaissent. Qu'est-ce que l'opération Stop aux bombes, Monsieur Bobin?
Alors justement, comme je viens de vous le dire, on a une intention particulière depuis des décennies sur les armes explosives et malheureusement, on est encore confronté aujourd'hui à l'échelle internationale à énormément d'usages d'armes explosives qui font peser une forte menace sur les populations. L'opération Stop aux bombes, c'est une campagne qu'on veut assez étroite, qui a commencé mi-septembre et qui va terminer mi-octobre et qui vise à mobiliser le public pour demander aux États membres des Nations Unies d'arrêter d'utiliser des armes explosives en zone peuplée.
Et de quel conflit on parle ici?
Alors malheureusement, il y en a un que vous connaissez très bien, qu'on connaît tous, c'est le conflit en Syrie. Toute la crise syrienne aujourd'hui génère énormément d'usages de bombardements et donc de personnes à la fois victimes, donc qui vont exploser, mais aussi qui vont fuir la Syrie et qui vont essayer de se retrouver soit dans les pays avoisinants, soit plus loin, et on le sait très bien, ici on en reçoit au Canada, au Québec, on en reçoit dans différents pays de la planète. Donc la crise syrienne forcément, mais il y a aussi en Irak, il y a aussi la bande de Gaza, il y a l'Ukraine, il y a la Libye, l'Afghanistan toujours, la Thaïlande, la Colombie aussi on en parle, il y a l'usage d'armes explosives en Colombie qui font peser une menace sur des innocents.
Est-ce que vous sentez que les Canadiens se sentent concernés par ces conflits qui sont extrêmement graves et cruels et catastrophiques, mais qui ne se passent pas, si je puis dire, chez nous, en Amérique du Nord?
Ben, c'est difficile, en effet, de se sentir concerné quand ça arrive très loin. Après, je pense que personne, à part ceux qui travaillent dans le domaine comme Handicap International, personne ne voit vraiment l'impact de l'usage de ces armes. Imaginez par exemple que si on vivait actuellement ce que les gens vivent en Syrie avec des bombardements sur Montréal, ça veut dire que les hôpitaux pourraient être détruits, ça veut dire que les canalisations d'eau pourraient être détruites, l'électricité serait détruite aussi. Bien sûr, les blessures humaines, mais les blessures psychologiques, les gens qui fuiraient toute la ville de Montréal pour se retrouver où? Peut-être à Ottawa, mais Ottawa serait la prochaine à être bombardée, donc pour aller où? Aux États-Unis. Imaginez, quand on comprend ce que vivent ces gens qui vivent sous les bombes et qui vivent sous la menace des bombes, c'est instantané, les gens se mobilisent pour ça.
Oui.
Mais comme on ne vit pas ça ici au Canada, c'est un peu plus dur.
Alors, Handicap International Canada fait un travail aussi de conscientisation, de sensibilisation.
Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, la campagne dont on parle, Stop aux bombes, elle s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux. On sait bien que les réseaux sociaux, maintenant, sont pas le nouveau terrain de jeu, mais en tous les cas, la place publique sur laquelle se manifestent énormément de choses.
Oui, pour le meilleur et pour le pire.
Oui, pour le meilleur et pour le pire.
Dans votre cas, c'est pour le meilleur.
Voilà, gardons que de temps en temps, le meilleur arrive. Donc, cette mobilisation-là par les réseaux sociaux pour demander aux gens déjà de manifester, dans un premier temps, de manifester leur refus de ces bombardements. Nous, après, notre rôle en tant qu'organisation de la société civile, c'est de prendre cette mobilisation et de l'amener aux dirigeants, que ce soit les dirigeants canadiens et, comme je vous l'ai dit plus tôt, aux dirigeants des Nations Unies, parce que c'est un sujet qui dépasse largement le simple cadre canadien et que nous, en tant qu'organisation internationale, on veut porter au plus haut point.
Et on peut signer une pétition.
Alors voilà, la campagne, elle se traduit. Soit vous postez un égo-portrait avec un stop sur la main, soit vous signez une pétition, soit vous avez aussi des contacts avec vos propres députés locaux et vous pouvez leur passer la campagne, les informer de la campagne. C'est toujours intéressant. Tout ce qui va permettre de faire passer le message, et c'est ce que vous faites aujourd'hui au Par Actualité, c'est quelque chose qui va nourrir la campagne pour faire en sorte finalement qu'il y ait moins d'individus qui subissent les effets de ces bombardements.
Alors, on peut aller directement à stopaubombes.ca?
Voilà, www.stop-o-bombe avec un s.ca, où vous tapez sur Google Stop aux bombes Canada et puis vous trouverez bien aussi la réponse.
Oui, et allez faire aussi un tour à handicap-international.ca/fr pour avoir encore plus d'informations sur Handicap International Canada ou Handicap International.
Sur Handicap International, sur ce sujet-là, puis sur tous les autres sujets, une fois de plus, on travaille énormément dans d'autres domaines et pour l'accompagnement et le développement des personnes en situation de handicap à travers la planète. Donc, il y a d'autres sujets aussi que les bombes.
Jérôme Bobin, merci et à la prochaine.
Merci Hélène.
Bonne chance.
Au revoir.
Et puis toujours dans le cadre des Paractualités, voici maintenant une entrevue avec la responsable au soutien pédagogique à l'association Dysphasie Plus. Elle s'appelle Geneviève Gauthier. Elle présente ici un guide destiné aux employeurs, un guide qui a pour but de favoriser la communication avec les personnes qui vivent avec un trouble du langage. On retrouve tout de suite Hélène Denis et son invité dans le cadre des Paractualités.
L'entrevue maintenant se déroule en compagnie de Geneviève Gauthier, responsable au soutien pédagogique Association Dysphasie Plus. Bonjour, Madame Gauthier.
Bonjour, ça va bien?
Oui, merci. Et vous?
Oui.
Alors d'abord, peut-être nous expliquer la mission d'Association Dysphasie Plus, parce qu'on va parler avec vous plus précisément du guide de l'employeur de l'Association Dysphasie Plus.
Oui, dans le fond, notre mission à Dysphasie Plus, c'est vraiment de sensibiliser la population au monde de la dysphasie, qui est le trouble primaire de langage, et de vraiment défendre la cause et les intérêts de ses membres, parce que dans le fond, la réalité en dysphasie actuellement, c'est un diagnostic qui est relativement jeune et peu connu de la société. Souvent, quand on va parler de la dysphasie, 9 personnes sur 10 ne vont pas connaître ce que c'est. Donc, nous, on est vraiment là pour faire reconnaître ce trouble-là à l'échelle nationale, mais aussi de défendre les besoins parce qu'il y a encore beaucoup à faire dans le monde de la dysphasie actuellement.
D'où l'importance d'un guide de l'employeur.
Oui, exactement. C'est vraiment venu, dans le fond, d'une initiative de nos adultes qui sont membres de Dysphasie Plus, où est-ce qu'ils disaient qu'il y avait beaucoup de besoins dans le monde de l'emploi parce que quand ils arrivent à l'âge adulte, il n'y a plus le réseau scolaire pour pouvoir les aider. Donc, ils se trouvent un peu dans un vide de service et ils nous nommaient comme quoi c'était difficile pour eux de vraiment faire connaître la dysphasie et que l'employeur soit sensibilisé à cette réalité-là.
Alors, souvent, justement, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce guide-là? Quel est le message aux employeurs qui est véhiculé dans le guide?
Dans le fond, le message vraiment derrière tout ça, c'est vraiment pour enlever tous les préjugés défavorables au handicap parce que souvent, ça va faire peur d'engager quelqu'un qui a un handicap. On a l'impression que ça va nécessiter beaucoup de ressources humaines, matérielles. Et nous, ce qu'on essaie de dire dans ce guide-là, c'est vraiment de faire, regardez, la dysphasie, oui, c'est un handicap, oui, il y a certaines adaptations à mettre en place, mais quand on est bien outillé ou quand on connaît moindrement ce que c'est, cette personne-là peut travailler comme tout le monde et mm-hmm. elle peut se maintenir en emploi parce que c'est des personnes extrêmement dévouées, acharnées, qui veulent vraiment garder leur emploi parce que c'est tellement difficile d'en trouver un qu'eux, une fois qu'ils l'ont, ça va être les employés les plus fidèles qu'on peut avoir parce qu'ils veulent le garder. Ils ont une fierté de travailler pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment, dans ce but-là, c'est vraiment de sensibiliser à et faire connaître c'est quoi les adaptations qui peuvent être mises en place, c'est quoi les forces de ces personnes-là. Donc, c'est vraiment dans un souci de sensibilisation et de reconnaissance de la dysphasie qu'on a fait ce guide-là.
Et comment vous l'avez réalisé, ce guide-là? Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez à l'écrire?
Oui, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était dans le cadre de mes études à la maîtrise. On devait trouver un sujet de recherche. Donc, moi, je me suis intéressée vraiment aux adultes dysphasiques. Et c'est en discutant avec huit personnes que vraiment ils ont fait, nous c'est le monde de l'emploi qu'on avait besoin, et là on essaie de trouver la façon la plus accessible de pouvoir construire quelque chose qui puisse rester dans le temps, que les personnes puissent utiliser vraiment autant les adultes dysphasiques que l'employeur ou les collègues, et c'est vraiment par la discussion que c'est les adultes qui ont vraiment décidé, puis ont fait ça serait un guide qui serait intéressant, un guide qui soit accessible, qui soit facile à lire, qui ne prenne pas 6 jours à un employeur parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça, donc c'est vraiment par la discussion à travers des ateliers, et c'est vraiment tout le guide a été construit par les adultes de vraiment c'est quoi les caractéristiques de la dysphasie, c'est quoi les forces, c'est quoi que les comportements qu'on doit privilégier comme employeur et tout. Donc c'est vraiment par le biais, et on a travaillé pendant 1 an de temps à l'élaboration de ce guide-là, mais ça venait vraiment d'une recherche de 3 ans sur vraiment tout ce qui se passe en dysphasie.
Un travail vraiment fouillé, sérieux. Quels sont les trucs, Mme Gauthier, les trucs faciles à mettre en place?
Dans le fond, ce qu'on va souvent nommer par rapport pour aider justement une personne qui a une dysphasie, parce que c'est beaucoup au niveau du langage, donc ça va être beaucoup au niveau des adaptations, parler lentement, éviter de donner, par exemple, 10 consignes à la fois. Des fois, on a tendance à vouloir dire « OK, tu vas aller passer le balai, après tu vas aller faire ça, après tu vas aller faire ça et tout. » Et quand on revient, on a l'impression que l'adulte n'aura pas fait les tâches demandées, puis on va se dire « Bon, il est paresseux, il n'a pas voulu le faire. » Mais des fois, c'est trop d'informations
oui.
en même temps.
Ça n'a rien à voir avec l'incompétence.
Non, exactement. C'est vraiment juste « Ah, donne-moi 1 ou 2 consignes à la fois, ou donne-moi une routine de travail visuelle avec les tâches à faire et je vais être capable d'y répondre facilement. » Ou donner une personne de ressources. Si tu as des questions, va voir telle personne et tu peux après ça continuer à travailler. Mais une fois qu'ils connaissent leurs tâches et
ils bien.
Doivent faire, ils travaillent super bien, oui. exactement.
On peut le trouver où, le guide de l'employeur de l'association Dysphasie Plus?
Dans le fond, présentement, c'est vraiment, nous, on peut l'envoyer, si les gens nous écrivent sur notre page Facebook de Dysphasie Plus ou à notre adresse à info@dysphasieplus.com. Donc, vraiment, nous, on l'envoie à ce moment-là. S'ils veulent l'avoir en copie, on peut aussi l'envoyer via courriel.
Et en terminant, Mme Gauthier, du 10 au 17 octobre va avoir lieu la semaine de la dysphasie. Qu'est-ce qu'on va y retrouver?
Oui, dans le fond, c'est notre 2e édition pour la semaine de la dysphasie. Donc, ça a commencé, cette initiative qui a commencé l'année dernière. Et chaque région a des organismes en dysphasie. Donc, vous pouvez aller sur le site du regroupement Langage Québec, qui est le regroupement qui chapeaute tous les organismes en dysphasie. Mm-hmm. Et comme par exemple, nous, dans la région de Laval, Montréal, on va offrir des cafés-rencontres pour les adultes, les parents. On va offrir des formations. Plusieurs d'entre elles vont être gratuites, justement, parce qu'on veut avoir le plus de gens possible pour faire reconnaître ce diagnostic-là.
Bon, on va avoir l'occasion d'y revenir du 10 au 17 octobre, la semaine de la dysphasie et le guide de l'employeur de l'association Dysphasie Plus qui est disponible.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Geneviève Gauthier.
Mais merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
Oh,
Et puis nous trouvions qu'il y avait ces nouvelles qui méritent peut-être qu'on les souligne, puisque vous savez qu'ici c'est notre mandat, c'est notre mission à Canalem, et que malheureusement ce sont des nouvelles qui sont trop peu rapportées peut-être par nos camarades ailleurs des médias. Alors ces nouvelles au sujet des Jeux Invictus par exemple, qui atteignent de nouveaux sommets. Être aveugle et journaliste, c'est un autre sujet abordé par Hélène Denis. Les Paralympiens recherchés, les greffes en Ontario, le Canada qui prend des mesures concrètes pour améliorer la diversité et l'inclusion au sein des entreprises privées, un mannequin canadien qui pourrait perdre la vue après un tatouage dans l'œil, et puis le site Pornhub qui développe son porno pour les malvoyants. Tout ça à l'instant.
Les Jeux Invictus de 2017 à Toronto se sont terminés samedi soir par une cérémonie de clôture spectaculaire qui a permis aux concurrents, à leurs familles et à des milliers de spectateurs de célébrer la fin d'une semaine de compétition inspirante. Pendant son allocution de clôture, le prince Harry a félicité la ville hôte. Vous avez présenté les plus imposants Jeux Invictus à ce jour avec une atmosphère des plus incroyables tout en faisant en sorte que les concurrents aient le sentiment d'être des vedettes comme il se doit. La troisième édition de cette compétition multisport pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés a accueilli plus de 550 concurrents provenant de 17 nations qui ont concouru, dans 12 sports adaptés durant 8 jours de compétition transformatrice. Les Jeux Invictus ont aussi mis en valeur ce qui se fait de mieux en matière d'hospitalité à Toronto. Nous apprécions grandement l'accueil qui nous a été fait ici au Canada. Je suis surprise par la démonstration de patriotisme et de soutien envers le personnel militaire blessé. C'est très touchant, a déclaré Anne Gruvarche, épouse d'Olivier Boutier, concurrent d'Équipe France. Pour Olivier, de finir sa carrière militaire aux Jeux Invictus, c'est fantastique. Pour son rôle, c'est encore mieux. Tout comme les concurrents qui ont repoussé leurs limites, la troisième édition des Jeux Invictus a battu des records. Le plus grand nombre de nations participantes et de concurrents, le plus important engagement jamais inscrit en matière de médias sociaux, un nombre inégalé de spectateurs et même des températures records. Être aveugle et journaliste, c'est sur le site d'iciradio-canada.ca. Rencontre avec le journaliste français Hakim Kasmi, aveugle de naissance, qui contribue à faire tomber les préjugés au sujet des personnes ayant un handicap visuel. Dans le studio de France Culture à Paris, c'est l'heure du bulletin de nouvelles de 12h30. Autour de la présentatrice, les journalistes, notes en main, se préparent à intervenir. L'un d'entre eux fait glisser à toute vitesse les doigts sur sa feuille car ses notes sont en braille. Hakim Kasmi est non-voyant. Pour devenir journaliste, un métier qu'il a toujours rêvé d'exercer malgré son handicap, il a dû travailler fort. Hakim Kasmi a du caractère, de la détermination. À l'époque où il poursuit ses études à l'Institut pratique du journalisme à Paris, il doit passer une entrevue avec Radio France qui l'embauchera pour un stage. Selon l'Institut canadien des aveugles, seulement le tiers des non-voyants occupe un emploi. Il faut dire que l'évolution de la technologie a rendu accessible un métier qui autrefois ne l'aurait pas été pour un non-voyant. Après ses années de stage et quelques contrats à plus court terme, Hakim Kasmi est embauché de façon permanente par Radio France, où il travaille par la suite dans les différentes antennes. Mais la plus grande satisfaction de Hakim Kasmi, c'est d'avoir été nommé grand reporter et d'aller faire des reportages à l'étranger. Mais il a d'abord dû convaincre ses patrons qu'il était en mesure de le faire. Des fois, je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de frustration. C'était dur parfois à accepter parce que pendant ces moments-là, on a l'impression d'avoir son handicap qui vous revient en pleine figure, dit-il. Hakim Kasmi répète souvent la même chose aux jeunes qu'il rencontre lorsqu'il donne des conférences dans les écoles. Il faut toujours tenter pour ne pas avoir de regrets. Moi, ça a toujours été un principe que je me suis fixé. Si j'avais écouté les gens, souligne-t-il, je n'aurais pas été journaliste, j'aurais fait kinésithérapeute. C'est un beau métier en plus, adapté aux non-voyants. Mais non, je vais tenter d'être journaliste. Au moins, si je n'y arrive pas, je n'aurai pas de regrets à 60 ans. Paralympien recherché visitera Vancouver et Toronto pour découvrir la future génération d'athlètes paralympiques potentiels. C'est dans le lezard.com. Le Comité paralympique canadien, en collaboration avec le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada, est heureux d'annoncer que Paralympien recherché sera à Vancouver le dimanche 22 octobre et à Toronto le dimanche 26 novembre. Paralympien recherché est un excitant programme conçu pour identifier les futurs athlètes paralympiques potentiels. C'est une activité d'une journée qui offre aux personnes ayant un handicap la chance de tester leurs habiletés et de découvrir quels sports paralympiques leur conviennent le mieux. L'activité accueille aussi des athlètes actuels et passés de tous les niveaux qui visent changer pour un nouveau sport paralympique ou découvrir un autre sport qui peut compléter leur discipline principale. L'activité est ouverte aux personnes ayant un handicap physique ou une déficience visuelle de 14 à 35 ans. L'inscription est gratuite et peut se faire à paralympique.ca/paralympien trait d'union recherche au pluriel. En plus de découvrir leur aptitude dans diverses habiletés sportives, les participants auront la chance de rencontrer des athlètes paralympiques, d'entendre leur histoire et de voir leurs médailles. En Ontario, une récente étude publiée dans le Canadian Medical Association Journal montre que la nouvelle politique consistant à prélever des organes sur donneur cœur arrêté a contribué à l'augmentation de 57 % les dons d'organes depuis 2006. Auparavant, le prélèvement s'effectuait sur critères de mort cérébrale qui supposaient une perte complète et irréversible de toute fonction cérébrale. Cependant, la pénurie de donneurs a conduit la province à revoir sa politique de prélèvement et à autoriser désormais les praticiens à prélever des organes dès que la circulation sanguine est arrêtée. Une hausse qui semble insuffisante aux auteurs de l'étude. Le taux en 2015 est de 18,2 donneurs par million de personnes et est très inférieur au nombre de donneurs potentiels, estimé à 40 à 89 donneurs pour 1 million de personnes. Ils estiment que le Canada doit continuer à se concentrer sur l'augmentation du don d'organes et la prévention du décès et du handicap pour les candidats potentiels de transplantation. Sur le site de newswire.ca, le Canada prend des mesures concrètes pour améliorer la diversité et l'inclusion au sein des entreprises privées. Il faut davantage de conseils d'administration et d'entreprises qui reflètent la diversité du Canada. Un effectif plus inclusif est essentiel pour que le Canada puisse surmonter les défis et profiter des occasions d'une économie moderne et mondiale. La diversité est l'une de nos forces et nous nous sommes engagés à faire en sorte que les entreprises canadiennes y aient recours. C'est le message livré par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains. Il a décrit les mesures proposées dans le projet de loi C-25, loi modifiant la loi canadienne sur les sociétés par action, la loi canadienne sur les coopératives, la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la loi sur la concurrence pour inviter les sociétés par action du Canada à recruter davantage de femmes et de membres des groupes sous-représentés au sein de leur conseil d'administration et de leur haute direction. Le ministre Bains a profité de l'occasion pour parler à de jeunes professionnels et à des dirigeants de l'importance des stratégies visant à favoriser la diversité et l'inclusion au sein de la haute direction d'entreprise. Il a décrit divers aspects du projet de loi C-25 et des façons dont celui-ci habilitera les groupes sous-représentés comme les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles. Le ministre Bains a également parlé de sa participation à la dernière rencontre des ministres du G7 à Turin, en Italie, où il a fait la promotion de la diversité et de l'inclusion, valeurs qui sont chères au Canada. Un mannequin canadien pourrait perdre la vue après un tatouage dans l'œil. C'est dans françoise.fr. Toutes les modes ne sont pas sans risque et Kat Gallagher, mannequin de 24 ans, en a fait les frais. Après s'être fait tatouer l'œil, la jeune femme risque de perdre la vue et alerte ses fans sur les dangers de telles pratiques. Kate Gallagher voulait juste compléter sa collection de tatouages. Elle va peut-être perdre la vue. Ce mannequin canadien publie depuis vendredi des photos de l'un de ses tatouages ratés pour prévenir ses fans de ne pas faire la même erreur. Il y a 3 semaines de cela, la jeune femme de 24 ans avait décidé de se faire colorer le blanc de l'œil, sa couleur préférée étant le violet. Le mannequin aux dizaines de tatouages a opté pour que sa sclère, le blanc de l'œil, soit de cette teinte. Ce genre de tatouage consiste à injecter des pigments dans l'œil. Mais très vite, la jeune femme a constaté que l'encre coulait sur son visage en permanence et que son œil gauche avait enflé. Dès les premiers jours, la jeune femme a publié des images de son œil sur sa page Facebook, consciente qu'il y avait un problème. Ainsi, elle voulait alerter des fans. Après plusieurs voyages à l'hôpital et des traitements antibiotiques, Kat Gallagher pourrait tout de même perdre la vue. Douloureux, irrité, l'œil de la jeune femme n'a apparemment pas fini de la faire souffrir et sa vision est devenue floue. Cette mode du eyeball tattoo peut être très dangereuse. Une encre de piètre qualité ou du matériel mal stérilisé peuvent être à l'origine de cécité totale. Sur les photos publiées par le mannequin, son visage d'habitude si fin est gonflé et la jeune femme semble beaucoup souffrir. Ses fans la soutiennent, mais certains n'hésitent pas à lui dire que cette idée de tatouage était stupide. Sur Slate.fr, Pornhub développe son porno pour malvoyants. Le plus important site pour adultes propose plusieurs fonctionnalités pour les personnes souffrant de troubles de la vue. Les pornos doivent être accessibles à tous les plus de 18 ans. C'est en tout cas ce qu'estime Pornhub. Pour n'exclure personne de l'accès à ces vidéos, la plateforme pornographique a développé de nouvelles fonctionnalités à destination des malvoyants, rapporte Ward. En 2016, le numéro 1 du porno avait déjà mis en place un système d'audio-description. Pornhub continue de multiplier ce genre de fonctionnalités pour toucher tout type de public. Pour les personnes qui souffriraient d'une déficience visuelle, la plateforme propose par exemple un outil permettant d'agrandir la taille des textes. Les daltoniens pourront de leur côté profiter d'un peu plus fort contraste de couleurs entre les images et l'arrière-plan ou la souris. Besoin d'accéder aux vidéos les plus vues ou aux films des porn stars? Il suffit de le dire et la reconnaissance vocale vous conduit à la page demandée. Des raccourcis clavier visent eux aussi à faciliter la tâche des malvoyants avec notamment la touche « Échappe » qui permet un retour en arrière ou la lettre « S » qui lance une recherche. Croire que de telles fonctionnalités seraient anecdotiques sur un site porno, ce serait oublier le trafic qu'enregistre Pornhub chaque jour dans le monde. Selon le site d'analyse Alexa, Pornhub est le 38e site Internet le plus important du monde.
Mais oui, il faut de tout pour faire un monde et tous les sujets sont bons. Merci beaucoup à Hélène Denis qui, je vous le rappelle, anime quotidiennement les paractualités sur nos ondes de 11h30 à midi. Voilà, je vous rappelle que vous écoutez Le National, animé pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. On fait une toute petite pause et je vous retrouve aussitôt après. Le National, deuxième partie, c'est toujours animé par Clotilde Seille, avec un grand plaisir sur les ondes de Canal M. Avez-vous déjà écouté, entendu l'émission Au Signal? Je l'espère, hein? c'est une nouveauté Canal M cet automne. Il s'agit de sport, une émission entièrement consacrée au sport. C'était le vœu, le souhait de notre ami Kevin Breton qui adore le sport, il en mange du sport. Et donc il nous a dit oui, moi je veux qu'on fasse une émission spéciale et spécialisée sur le sport autour de la communauté des handicapés, les personnalités, les résultats, tout ça, les histoires, bref, il s'éclate et nous avec. Comment, vous ne l'avez pas entendu encore? Mais j'ai ce qu'il vous faut dans le cadre du National, puisque cette émission est faite exprès. Figurez-vous qu'on va retrouver Kevin Breton, et ses invités. D'abord, il sera avec Marc-Antoine Ducharme et Karine Côté, respectivement directeur général et responsable des communications chez Parasport Québec. Et puis, ensuite, on va le retrouver avec Benoît Séguin, qui est professeur à la Faculté des sciences de la santé à l'Université d'Ottawa, et qui est, lui, spécialisé en marketing sportif. Allez, au signal, go, Kevin.
Mes premiers invités sont déjà en studio. Un petit peu plus tard à l'émission, on va rejoindre en direct d'Ottawa, par téléphone, un professeur spécialiste en communication marketing, Benoît Séguin, en marketing sportif, devrais-je dire, plutôt. Mais tout d'abord, avec moi en studio, bien, il y a Marc-Antoine Ducharme, qui est directeur général de Parasport Québec. Bonjour, Marc-Antoine.
Bonjour, Kevin.
On a appris une grande nouvelle. Vous êtes directeur général, mais encore seulement pour quelques temps. Vous avez accepté de nouvelles fonctions.
Oui, j'ai accepté le poste d'entraîneur-chef de l'équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant. Donc, j'avais travaillé avec cette équipe-là pendant l'été, là, mais ils m'ont offert un contrat à temps plein. Là.
Parfait, bien, félicitations tout d'abord.
Merci.
Avec nous, votre collègue Karine Côté. Bonjour Karine.
Bonjour.
Est-ce qu'il a fait nous expliquer votre rôle au sein de Parasport Québec?
Moi, principalement, à Parasport Québec, j'ai trois mandats. Je suis coordonnatrice des programmes de l'équipe du Québec, autant en athlétisme qu'au rugby, aussi en fauteuil roulant. Et j'ai un troisième volet qui s'occupe principalement du développement, donc du recrutement de futurs participants à nos sports ou d'athlètes de haut niveau, là, comme on peut dire.
Puis est-ce qu'on rentre dans ce dossier-là, la communication?
Effectivement, c'est sûr qu'au niveau du développement, j'ai beaucoup de travail au niveau de la communication, que ce soit promouvoir nos activités, mais aussi plus nos activités sont dans les médias, plus il y a de chances d'aller recruter de futurs participants.
Mm-hmm. Ça passe. Ben, Parasport Québec, en fait, c'est quoi son mandat ou sa mission?
La mission de Parasport, dans le fond, c'est d'offrir le plus d'opportunités là, aux personnes ayant des déficiences physiques de faire de l'activité physique du sport. Fait que soit le récréatif ou autant de compétitif. Donc, on essaie d'offrir le plus de programmes possible pour que toutes les personnes, peu importe leur niveau d'engagement qu'ils veulent avoir dans le sport, puissent avoir une option.
Puis ça se passe bien, le recrutement, que ce soit au niveau élite ou au niveau récréatif de jeunes pour faire du parasport?
Ben, ça se passe relativement bien, oui, mais c'est sûr qu'on a des contraintes. Là. Les jeunes sont durs à les rejoindre. Là, comme vous l'avez mentionné au départ, on n'est pas les sports qui sont les plus médiatisés à la TV.
Mm-hmm.
Donc, le samedi soir, ça va être du hockey qu'ils vont voir. Ça ne sera pas un match de basket en fauteuil ou de rugby. Mais je pourrais dire que ça s'améliore. Avec les derniers Paralympiques qu'on a vus à Rio, je pourrais dire depuis les Jeux de Vancouver de 2010, là, je pense que de plus en plus au Canada, au Québec, là, on voit les Paralympiques ou les Parapanames. Les gros Jeux, on en voit quand même un petit peu.
Il y a plus de visibilité, qu'on constate.
Mais quand on sort des grands Jeux, là, des Paralympiques ou des Parapanames, c'est là qu'on a un manque de visibilité.
Puis j'imagine, puis je vous pose la question aux deux, mais quand on voit davantage de modèles qui ont du succès, tu sais, des Aurélie Rivard, des Benoît Huot, des Chantal Petitclerc qui ont du succès, ça doit créer un certain engouement dans la relève?
Effectivement, je crois que la grosse différence depuis les dernières années, c'est vraiment la présence de porte-parole dans les médias qui portent le dossier des sports adaptés. Donc, quand on arrive dans des activités pour faire la promotion, la sensibilisation auprès de populations qui ne sont pas nécessairement au courant trop des sports de l'existence des sports adaptés, bien, quand on nomme des noms comme ça, facilement, ils font un lien parce qu'ils l'ont vu à la télévision la veille ou ont lu un article dans les journaux sur l'histoire de Benoît Huot ou Aurélie Rivard sont des très bons exemples.
Ça les stimule nécessairement. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui à Canalem pour parler de tout ça. Mais tu sais, sans prétention, je sais très bien que vous voulez transmettre votre message dans les plus grands médias. Ce serait une façon de faire en sorte que le message passe, rejoigne une plus grande partie de la population. Je me trompe?
C'est sûr que d'aller chercher des grands médias avec des réseaux qui ont des codes d'écoute plus grands, comme Marc-Antoine dit, Radio-Canada, tout ça, c'est des réseaux qui, quand il y a les grands jeux, font un travail qu'on trouve raisonnable. Mais dans les chaînes spécialisées aussi, ça serait quelque chose qui pourrait être intéressant pour aller chercher une plus grande part de la population.
Est-ce qu'ils sont réceptifs, les grands médias, quand vous les approchez pour leur dire « Hey, on a une compétition d'athlétisme en fauteuil roulant qui s'en vient à Sherbrooke, puis… »
Mais la plupart du temps, on passe par Sportcom. C'est Sportcom un peu qui a la liste de tous ces contacts-là. Mais je pourrais dire que c'est assez rare là, que nos textes là, se rendent jusqu'à ces grands médias-là.
Sinon, c'est quoi les stratégies qu'on met en place pour développer l'image de marque du sport adapté?
Principalement, on va y aller à l'échelle locale d'abord. Par exemple, si j'ai un tournoi de rugby en fauteuil roulant, le mois précédent, je vais essayer de faire un premier contact avec les radios locales, les journaux locaux, pour être sûr que au moins cette partie-là, on se retrouve avec une couverture. Par la suite, on a lancé quelques perches à des émissions un petit peu plus grande écoute pour avoir des idées un petit peu plus originales. Par exemple, faire essayer le rugby en fauteuil roulant à une vedette ou des choses comme ça.
Ça marche bien, j'ai l'impression. Hein?
Au niveau anglophone, on a vu ces genres de reportages très, très amusants qui ont fait une belle pub au sport adapté. Chose qu'on a moins vue, je trouve, du côté francophone, qui serait peut-être intéressant.
Par exemple, on pourrait demander à Jonathan Drouin d'essayer du hockey luche. Ce serait une bonne manière, un stunt publicitaire, de faire connaître le sport adapté.
Ouais, c'est ça. C'est fait un peu du côté ontarien aussi. Là. Avec le Rick Mercer Show, ils sont allés chercher là, justement là, des athlètes qui l'ont fait essayer des sports. C'est arrivé au Québec aussi, on l'a vu avec Étienne Boulay aussi, qui l'a
Ah
fait
ouais?
là, avec David Eng pour le basketball en fauteuil roulant. Ça arrive, là, on a des occasions comme ça aussi, mais ils ne sont pas perpétuels. C'est des une fois de temps en temps qu'on réussit à aller avoir une publicité comme ça, mais sinon c'est beaucoup par le bouche à bouche, le bouche à oreille. Le bouche à oreille dans les écoles, la sensibilisation auprès des écoles et tout ça, là, c'est beaucoup de ce côté-là aussi qu'on fait notre.
Les journaux locaux. Je suis quand même content de savoir qu'il y a une certaine réceptivité de la part des journaux locaux. Ça tombe en plein dans leur mandat. Et puis sinon, bien, vous m'aviez aussi parlé, avant qu'on entre en onde, des centres de réadaptation, qui est un bon point de chute pour donner de l'information à des futurs athlètes.
Oui, mais je vais laisser Karine répondre à cette question-là. Ça fait partie de son travail.
Bien, tout à fait. Notre présence en centre de réadaptation est primordiale, mais c'est difficile d'être présent de façon quotidienne, hebdomadaire, si je peux dire. Si je décide, pardon, de me présenter à un centre de réadaptation une journée avec mes pamphlets, je vais croiser les personnes qui ont un rendez-vous cette journée-là. Les 364 autres ouais. jours de l'année, faut que je me fie un peu aux médecins, aux physios, aux ergos
les
qui vont croiser
de première ligne, là.
Exactement les intervenants du milieu de la réadaptation. Je dois me fier à eux pour promouvoir mon sport. Et malheureusement, ce qu'on entend souvent, c'est que soit dans le moment qu'ils ont avec leurs clients, c'est très, très restreint au niveau du temps. Donc, ils ont quand même une planification des choses à faire avec leurs clients qui fait que le sport adapté n'est pas nécessairement la première chose qui leur vient en tête. Et c'est pas parce que tu es physio que tu es nécessairement sportif. Donc, c'est sûr que la réception se fait souvent au niveau des intervenants de la réadaptation qui ont déjà une expérience sportive. Ils vont... en premier, proposer ça.
Ils vont prêcher par leur paroisse.
Exactement. Pour les autres, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est pour ça que, au niveau de la réadaptation, mon mandat en développement, j'essaie beaucoup d'aller dans les universités pour au moins aller chercher les étudiants qui vont être des futurs intervenants du milieu de la réadaptation, leur faire essayer le sport, comme par exemple le basket en fauteuil roulant. C'est très facile de faire une démonstration ou une initiation. Et après ça, quand ils se retrouvent dans leur milieu de travail, bien, ils peuvent se rappeler que
ça existe.
Ça existe.
Et même si on ne peut pas être de garde 365 jours par année en déposant des flyers ou des dépliants, il y a quand même une probabilité qu'une personne qui va faire réparer son fauteuil roulant au moins une fois par année ou l'entretenir va tomber sur ça.
Exactement. La visibilité est très, très importante.
Dernière question avant qu'on ait rejoint notre invité en studio. Je vais la poser à vous deux, mais est-ce qu'il y a un sport parmi toute l'offre de sport adapté qui semble plus accrocher le grand public ou les grands médias?
Mais pour le sport paralympique le plus populaire, je pourrais dire que ce serait le basketball en fauteuil roulant. Mais côté médiatique, au Québec, c'est l'athlétisme qui a la cote avec les André Vigé, les Chantal Petitclerc. Fait que, point de vue pratique sportive puis spectateur, c'est le basketball en fauteuil roulant partout dans le monde. Mais au Québec, on a une grosse cote là, pour l'athlétisme en fauteuil roulant, mais ce qui est très bien également.
Possiblement explicable, comme vous le dites, grâce au brio de Chantal Petitclerc et autres André Vigé. On va poursuivre cette discussion vraiment passionnante dans un instant. On va aller à Ottawa rejoindre au bout du fil le professeur Benoît Séguin.
Je cherche des restes de toi dans la chambre froide et dans le piano droit. Je cherche l'écho d'une voix qui disait aime-moi. Je cherche des restes de toi. J'ai caché des morceaux de moi au fond de tes poches, dans ta grande sacoche. J'ai caché des mots maladroits sous la soie de ta peau. J'ai caché des morceaux de moi. Et je me parle tout seul quand je m'ennuie de ma California girl, ma California girl. J'ai trouvé des éclats de joie sous le sofa et
dans les plis de nos draps. J'ai trouvé des traces de pas dans la neige, à la télé. J'ai trouvé des éclats de joie. Et je me saoule la gueule quand je m'ennuie de ma California girl, ma California girl.
Très choyé d'avoir au bout du fil Benoît Séguin qui a accepté l'invitation. Bonjour, Monsieur Séguin.
Bonjour.
Premièrement, peut-être pour les gens qui ne sont pas initiés au concept de marketing et encore moins à celui de marketing sportif, est-ce que vous pouvez nous le résumer en quelques lignes comme vous le résumeriez à vos élèves en classe, par exemple?
Bien, c'est intéressant parce que justement, je viens de quitter une de mes étudiantes. Le marketing sportif, c'est pas nécessairement différent du marketing en général, hein, qu'on essaie, par exemple, là, j'écoutais un peu la discussion là, de faire connaître notre produit. Donc, on parle tout le temps des 4 P, le produit, la promotion, le prix et la place dans laquelle on va aller chercher le produit. Ce qui est intéressant avec le sport versus, par exemple, un produit là, plus tangible là, comme une auto, par exemple, ou une bouteille de shampoo, c'est que le sport, le produit, c'est intangible. Donc, c'est un service où, lorsqu'on parle de sport paralympique ou de sport olympique, c'est aussi un spectacle. Mm-hmm. Donc, de plus en plus, le sport comme le sport spectacle ou la compétition sportive, ben, c'est produit sous nos yeux. Donc, on peut pas le toucher, on peut pas y goûter. Donc, les spectateurs ou les gens qui participent, ben, on fait la co-création de ce produit-là, dans le fond.
Avoir une idée à la NBA, un peu. Là, on veut pas juste avoir un match de basketball sur un court, c'est tout ce qui entoure, c'est-à-dire la musique, etc.
Exactement. Donc, si on fait la promotion du basketball versus si on fait la promotion du spectacle d'un événement de basketball, mais l'approche va être complètement différente.
Est-ce que vous le sentez, Marc-Antoine et Karine, dans les matchs de basketball en fauteuil roulant, qu'il y a davantage plus d'attention qui est donnée au spectacle pour donner un espèce d'engouement aux spectateurs?
Mais c'est peut-être parce qu'il y a un peu plus de rythme. Dans les matchs de sport, il y a un peu plus de rythme que, je pourrais dire, une course athlétiste où il y a un départ, c'est donné, parce que ça, il va y avoir un temps tampon entre les courses et tout ça. Donc, c'est sûr que dans des matchs de basket, il y a un peu plus, comme je dis, de rythme, mais...
Puis de ton côté, Karine?
C'est sûr que c'est intéressant d'avoir, comme Marc-Antoine dit, un rythme pour le spectacle, mais je crois qu'aussi au niveau du sport adapté, on utilise aussi beaucoup l'histoire des athlètes qui peut être... quand même particulier selon comment ils se sont retrouvés dans cette situation d'handicap-là. Mm-hmm. C'est des choses qu'on va souvent mettre de l'avant ou que les médias qui font les entrevues avec les athlètes vont mettre de l'avant.
C'est souvent la porte d'entrée pour parler du parasport. Benoît, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est un peu une manière pour le parasport de tirer son épingle du jeu, de miser?
Oui, parce que moi, je pense que, dans le fond, chaque athlète, on peut leur histoire. Hein? Et puis ça, c'est ce qui est intéressant aussi. C'est comme ça que le public aussi peut connecter avec ces athlètes-là. Donc, c'est le positionnement, par exemple, de la marque paralympique, si on peut le mentionner comme ça, ou la marque de sport adapté, est peut-être plus là-dessus, justement. On va essayer de connecter au niveau des émotions puis au niveau des histoires de ces athlètes-là. Donc, on est plus dans le social, dans le fond, que dans le spectacle. Donc, l'emphase est peut-être moins mise sur la compétition et le spectacle, comme peut-être on le fait avec les Jeux olympiques, par exemple.
Donc, je comprends que de vendre par le biais de l'individu, de son histoire, que par le sport, ça peut être une porte d'entrée facile pour les médias, mais je pose la question à mes deux invités en studio. Est-ce que pour un athlète, ça peut être un peu dénigrant qu'on parle de son accident d'auto plutôt qu'on parle de ses 18 rebonds puis de ses 14 paniers de la veille?
Ben c'est sûr que c'est une remarque qui revient, ouais. Qui revient de temps en temps. Là. On a toujours essayé de rendre le sport comme une soit sportif et non pas c'est ça, et non pas un sport social. Donc, mais je pense que de plus en plus, on réussit à se distancer de ça. Mm-hmm. Je pense que les amateurs font la différence là, entre entre un exploit sportif, je pense, puis ce qui est arrivé dans leur vie pour qu'ils se rendent là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est deux éléments là, qui est quand même assez important, mais il ne faut pas trop focaliser juste sur un des deux éléments.
On ne veut pas que ça devienne c'est seulement ça. Charitaire.
C'est, ça. C'est un peu comme les émissions comme La Voix et tout ça aussi, que des fois, ils vont chercher l'autre côté. Là. c'est sûr que tu as mieux... C'était mieux le côté où c'est un bon chanteur que le côté où son père a eu un cancer quand il était jeune.
Excellent parallèle. Parce qu'on va effectivement avoir un penchant pour la personne qui a une histoire touchante à la voix, mais si elle chante mal, elle ne va pas gagner. Donc,
non, c'est ça.
C'est intéressant comme parallèle. Benoît Séguin, j'aimerais savoir, en 2017, qu'est-ce que je vous entendais parler tantôt du positionnement de la marque paralympique. Selon vous, on la situe où en termes de popularité puis de choses à améliorer pour augmenter la popularité du parasport en général au Québec et au Canada?
Oui, écoutez, moi, je pense que c'est une marque en plein essor, hein, est encore en développement. Je crois qu'il y a un potentiel énorme avec la marque paralympique. Et puis, si on parle au niveau national, je crois que le Comité paralympique canadien fait quand même de l'excellent travail là, pour développer cette marque-là au cours des dernières années. Moi, j'ai une étudiante qui vient terminer ou qui va terminer sa thèse de maîtrise bientôt, qui l'a fait sur la marque paralympique.
Wow.
Donc, c'est intéressant parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des entrevues avec différentes parties prenantes, donc que ce soit d'autres fédérations, les médias, les sponsors ou les commanditeurs. Et puis donc, elle a été essayée de voir, d'avoir différentes perspectives sur la perception que les différentes parties prenantes peuvent avoir sur la marque paralympique, mais aussi comment que ces parties prenantes-là peuvent co-créer la marque à travers leur propre promotion ou de la façon que eux peuvent, que ce soit les médias, comme je pense j'ai entendu un peu plus tôt, là, comme les médias locaux vont en parler. Donc, on co-crée, dans le fond, on apporte une certaine visibilité à la marque ou au sport adapté. Donc, elle, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'il y avait quatre positionnements de cette marque-là. Là, on vient de parler de la haute performance, et puis ça, c'est ce que les athlètes veulent. Ils veulent être reconnus comme des athlètes de haut niveau. C'est aussi, il y a un positionnement qui peut être, en anglais, on parle de inspiration. Hein, on peut être inspiré ou on peut être, ça vient nous chercher justement de voir les histoires qui peuvent être liées avec ces athlètes-là. Et puis, il y a aussi le côté social au niveau d'inclusion, d'égalité ou d'équité dans le fond, dans le monde sportif. Et puis, finalement, le quatrième volet de la marque, c'est un peu confus.
C'est confus?
Il y a une confusion parce que les gens ne savent pas trop c'est quoi.
Ah ouais.
La marque paralympique, c'est un peu, c'est pas très bien distingué vis-à-vis peut-être les Special Olympics ou les Olympiques spéciaux. Puis il y a beaucoup de catégories dans les sports paralympiques.
Il y a plein de classifications, effectivement.
Des classifications, donc c'est difficile pour eux de comprendre, mais il y a quand même, écoutez, les Paralympiques peuvent être positionnés comme une marque un peu plus sur le social, comme on a discuté tantôt, mais il y a aussi un aspect de haute performance. Je crois que le défi, si le focus est sur la haute performance, mais là, on devient plus dans le côté spectacle et plus, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce côté-là à faire.
Et c'est difficile, je suppose, de vendre la haute performance à une grande population qui, pour une grande partie de la population, elle n'a jamais été en fauteuil roulant. Donc, c'est difficile pour elle d'évaluer qu'est-ce que ça représente comme effort de faire un 100 mètres en fauteuil roulant, alors que monsieur, madame, tout le monde, là, sauf moi, a déjà couru un 100 mètres sprint.
Exact. Comme moi, écoutez, moi, j'ai été c'était à Whistler pendant les Jeux paralympiques. Donc, c'était ma première expérience de voir des athlètes de haut niveau là, de faire le ski alpin. Donc, je me souviendrai toujours, le ski alpin avec des personnes, bon, qui étaient malvoyants. Tu sais, il y avait quelqu'un en avant d'eux qui descendre la même piste que j'avais fait quelques jours auparavant ou quelques mois auparavant. Donc là, je pouvais vraiment avoir une appréciation de ce que ces athlètes-là faisaient parce que j'en fais du ski alpin.
Ouais.
Et puis je me disais, si je ferme mes yeux là, puis que je descends la même piste à la vitesse qu'ils vont, c'est absolument incroyable. Donc,
c'est plus facile de s'identifier aux athlètes, là.
Si on fait le sport, comme c'est exactement ce que vous dites. Donc, c'est difficile pour les gens souvent de s'identifier ou de se mettre dans le contexte, par exemple, de basketball en chaise roulante ou de rugby en chaise roulante ou de volleyball assis. C'est comme ça devient un peu plus difficile si on le fait pas.
Puis si on n'en voit pas également à la télévision, parce que même si on n'en fait pas, si on finit par en... Tu sais, moi, j'ai jamais joué au hockey, mais je suis quand même capable d'évaluer les capacités d'un joueur à force d'en voir. Donc, si on commence à en voir un peu plus à la télévision, l'intérêt va augmenter. Je veux juste rebondir, Karine, parce qu'on parlait de la confusion dans le tantôt qui existait parfois entre les différents sports, différentes catégories. Vous, quand vous approchez des gens pour parler du parasport, est-ce que vous la ressentez, cette confusion-là?
Ah, oh, tout à fait. C'est développer la capacité de vulgariser beaucoup, beaucoup d'informations et de pas sembler trop lourde pour la personne en arrivant en décrivant toutes les catégories ou toutes les classifications et pouvoir l'accrocher. Lors d'un premier contact, on reste souvent dans la simplicité. Quand c'est du monsieur, madame, tout le monde, justement, on va essayer d'utiliser plus les effets spectacles ou juste de faire le parallèle avec le type d'handicap. Souvent, c'est ça qui est difficile au niveau de la promotion. Si le monde comprenait dans quelle situation d'handicap ces personnes-là sont et versus la performance sportive qu'ils donnent, c'est là que le spectacle, c'est impressionnant.
Ben oui.
Mais faut que tu comprennes l'handicap. Et il faut que tu comprennes la performance sportive. Donc, c'est là que je pense que, comme M. Séguin expliquait, qu'il est difficile de percer.
C'est ça. Comme Karine dit, mettons, on regarde un match de rugby en fauteuil roulant. Si tu ne sais pas qu'il faut absolument que tu aies des limitations physiques aux membres supérieurs pour faire ce sport-là, là, tu peux peut-être dire, OK, ils ont de la misère à attraper le ballon, le jeu est un peu plus lent que, mettons, que d'autres sports que tu as vus. Mais en sachant que toutes ces personnes-là ont des limitations physiques aux membres supérieurs, là, tu viens de dire, OK, il leur manque un biceps, il leur manque des bouts de bras. Ça vient plus dur. Des fois, quand il leur manque une partie, c'est plus facile à voir, c'est plus visible.
Oui.
Mais quand c'est une paralysie, puisque c'est juste que le muscle ne fonctionne pas, mais le bras est là en entier, là, c'est un peu plus dur à évaluer. Là.
Uh-huh. On n'a plus beaucoup de temps, mais Benoît, j'aimerais quand même qu'on aborde rapidement la question des commanditaires, parce qu'on a quand même vu plusieurs compagnies, les grandes compagnies comme Visa et Samsung sponsoriser les Paralympiques. Puis il y a la compagnie Canadian Tire là, qui a d'ailleurs procédé à une annonce importante pour le sport adapté au Canada. C'est quoi l'intérêt ou la motivation pour une compagnie comme celle-là de s'associer à un sport slash cause comme le parasport?
Mais écoutez, premièrement, c'est une très bonne nouvelle qu'il y a des grandes entreprises qui commencent à s'associer avec le sport paralympique ou le sport adapté, parce que ça l'envoie un message aussi que si ces grandes entreprises-là s'associent à ces sports-là, c'est qu'il y a une importance ou qu'il y a un intérêt auprès du public, parce que sinon, on ne le ferait pas. Donc, ils peuvent vraiment, d'après moi, aider à faire à augmenter cette visibilité-là qu'on parlait, et aussi là, moi, je pense que le positionnement est peut-être plus sur l'aspect social que la haute performance, mais je pense que ce soit sur un des deux aspects qu'on a discuté, c'est déjà une bonne nouvelle que les entreprises, à travers leur propre campagne de publicité, vont augmenter la notoriété du sport paralympique ou des sports adaptés. Donc, il y a Toyota aussi qui est le premier grand partenaire mondial des paralympiques. Donc, quand je parlais un peu de co-création, donc on peut, à travers justement ces entreprises-là, je crois qu'on va pouvoir augmenter justement la notoriété ou la visibilité, puis éventuellement continuer à construire cette marque-là qui, d'après moi, dans quelques années, va augmenter là, au niveau de la force de cette marque et puis de plusieurs parties prenantes qui vont vouloir s'associer avec ce type de... Bon, avec cette marque et puis le parasport.
Un peu comme le sport amateur s'est développé dans les 10-15 dernières années, on espère que le parasport va avoir une poussée semblable.
Absolument.
Super. J'espère que votre étudiante qui a fait sa maîtrise sur le paralympique parle français. Si oui, vous m'enverrez ses coordonnées, Benoît, pour que je puisse la recevoir à l'émission un de ces jours.
Oui, puis vraiment, c'est très intéressant. Puis je travaille aussi avec des gens du comité olympique Comité canadien paralympique, sur les sujets qu'on vient de discuter. Donc, comme j'ai dit, moi, je pense que c'est en pleine croissance.
Merci énormément pour vos lumières aujourd'hui, M. Séguin. C'est fort éclairant.
Ça me fait plaisir.
Je remercie également en studio nos deux invités. On vous souhaite beaucoup de succès à Parasport. Ben, dans votre cas, Karine, à Parasport Québec.
Merci.
Et aussi à Marc-Antoine dans vos prochains défis. Là, semble-t-il que l'objectif, c'est de ramener la médaille d'or à l'équipe féminine en basketball en fauteuil roulant. Là.
Oui.
Bon, rien de moins. La première marche du podium. Est-ce qu'il y a des compétitions qui arrivent prochainement en basketball en fauteuil roulant?
Bon, il y a des compétitions amicales là, qui arrivent prochainement, mais le championnat du monde y est au mois d'août là, en Allemagne.
Voilà, c'était deux extraits de l'excellente émission animée par Kevin Breton au Signal sur les ondes de Canal M. Et c'est ce qui vient mettre un terme à cette émission, Le National, pour cette semaine. Je voudrais, comme je le fais fidèlement, remercier toute l'équipe qui rend possible cette émission-là. Et alors, vous savez, je pense à Anne-Laure Janson, je pense à Mathieu Tessier, je pense à Christiane Campagna, à Louise Vien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous toutes et vous tous. Et puis, merci à vous de nous écouter. Vous savez que pour plus d'informations ou si vous désirez réentendre ces émissions ou ces entrevues, il vous suffit d'aller visiter canalm.vuesetvoix.com et d'aller cliquer sur Canal M, les émissions, les titres. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez même les écouter juste par segment, si vous voulez. Alors, à bientôt et à la semaine prochaine.